La France stoppe l'accueil des Gazaouis sur son territoire, une décision prise en réaction à la découverte de propos antisémites tenus sur les réseaux sociaux par une étudiante Gazaoui accueillie en France. Les explications dans ce journal de Claude Guibal. À chacun son taux de droits de douane, très élevé pour nos voisins suisses, 39%, une douche froide. Nous irons à Genève et plus largement, nous analyserons les effets de ce bouleversement des règles du commerce mondial pour l'Europe et pour les États-Unis avec l'économiste Lionel Fontanier. En France, la carte des sites contaminés par les PFAS, elle a été mise en ligne par le gouvernement, pas forcément très lisible pour le grand public. Marie-Aimée Coppelaert a testé pour nous. La mort du metteur en scène américain Bob Wilson, très apprécié en France. Nous verrons dans quelle mesure ce visionnaire du théâtre de l'opéra a marqué la scène française. Ce sera la fin de cette édition. La Feuille, la France, n'accueillera plus de personnes évacuées de Gaza, en tout cas dans l'immédiat. Conséquence de l'accueil sur le territoire français d'une étudiante gazaoui, à l'origine de propos très antisémites sur les réseaux sociaux, appelant même à tuer des juifs. La jeune femme devait intégrer Sciences Po Lille. Une enquête judiciaire a donc été ouverte pour apologie du terrorisme et comprendre les dysfonctionnements liés à son accueil. La jeune femme devra aussi quitter la France, fait savoir ce matin le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Pour aller où, cela reste encore à déterminer, Claude Guibal.
Arrivée en France sur proposition du consulat de France à Jérusalem, explique Sciences Po Lille, la jeune femme aurait publié sur les réseaux sociaux des publications violentes à l'égard d'Israël et des Juifs, des publications supprimées depuis, mais à la découverte des captures d'écran de ces messages, Sciences Po a annulé son inscription. Jean-Noël Barrot annonce ce matin que la jeune femme doit quitter la France.
Cette jeune femme n'a pas sa place en France. De toute évidence, les contrôles sécuritaires qui ont été menés par les services de l'État compétents, ainsi que par les autorités israéliennes, n'ont pas permis de détecter ces propos antisémites et inacceptables. Et avec le ministère de l'Intérieur, nous avons diligenté une enquête interne pour faire toute la lumière sur cette affaire. Et en attendant, aucune évacuation d'aucune sorte ne se tiendra tant que nous n'aurons pas tiré les conséquences de cette enquête.
Quant à la suite, difficile d'imaginer que cette étudiante puisse être renvoyée à Gaza. Pour l'instant, le Quai d'Orsay ne précise pas vers où elle sera expulsée. En attendant, Jean-Noël Barrot précise que tous les profils des Gazaouis accueillis jusqu'ici vont être réexaminés. Et cela concerne au moins 600 personnes évacuées de Gaza par la France depuis le début de la guerre. Des personnes sélectionnées selon un double processus de filtrage au cas par cas mené par le Quai d'Orsay et par les autorités israéliennes qui valident ces départs après avoir vérifié chaque profil. La plupart sont des étudiants ou des enseignants qui doivent justifier de liens avec la France ou d'inscriptions universitaires ainsi que de possibilités d'accueil. Jean-Noël Barrot précise qu'une enquête est en cours pour identifier les failles de ce profilage et donc en attendant toute évacuation est suspendu. Des dizaines de personnes, dont des familles avec enfants, étaient attendues dans les jours qui viennent.
À son tour, la France parachute 40 tonnes de nourriture dans Gaza, affamée. 4 vols emportant 10 tonnes de nourriture chacun sont prévus. Des largages humanitaires critiqués par les ONG qui les trouvent insuffisants et aussi dangereux pour les Gazaouis. Ce matin, la Slovénie annonce qu'elle compte interdire tout commerce d'armes avec Israël, en lien avec ce qui se passe donc à Gaza. C'est le premier pays de l'Union européenne à faire cette annonce. La Slovénie qui regrette que l'UE soit, par manque d'unité, à cause de désaccords internes, incapable de prendre des mesures concrètes contre Israël. Il continue de restructurer le commerce mondial au bénéfice des salariés américains. Les mots de Donald Trump qui signe chaque jour les décrets fixant de nouvelles surtaxes douanières. La Suisse fait partie des pays qui ont décroché le gros lot. En guise de cadeau pour sa fête nationale aujourd'hui, Donald Trump annonce qu'il va taxer les produits helvétiques à 39%. C'est le taux le plus élevé de toute l'Europe, le cinquième au niveau mondial. Une annonce qui a fait l'effet d'une douche froide en Suisse, pourtant très conciliante avec le président américain jusque-là. À Genève, pour RFI et France Culture, la correspondance de Jérémy Lange.
Il y a quelques jours encore, la Suisse espérait conclure un accord commercial avec les États-Unis avec à la clé des droits de douane parmi les plus faibles possibles. C'est tout l'inverse qui s'est produit. 39%, c'est même pire que les 31% annoncés lors de la première salve de taxes au printemps. Alors pourquoi la Suisse est-elle visée? Eh bien parce que Donald Trump ne jure que par la balance commerciale entre les pays et elle est très en faveur de la Suisse qui vend aux États-Unis ses produits chimiques, ses médicaments, son horlogerie et ses machines de pointe. Les États-Unis, c'est presque 20% des exportations nationales. Le coprésident du groupe socialiste au Parlement, Samuel Bendaon, regrette que la Suisse n'ait pas voulu engager le bras de fer avec le président américain quand il était encore temps.
C'est vrai que l'Union européenne s'en sort mieux que la Suisse, pas simplement parce qu'elle a répondu de façon sont beaucoup plus musclés que la Suisse au début. Mais c'est vrai que la Suisse, qui a été extrêmement conciliante avec Donald Trump, on paye aujourd'hui le prix. Et c'est assez difficile d'accepter qu'un pays comme le nôtre se soit mis à plat ventre devant Donald Trump et se retrouve ensuite à subir les conséquences les plus graves qu'il y a en matière de droits de douane.
À droite, on dénonce une attaque directe contre la prospérité de la Suisse. Encore sonné, le gouvernement dit prendre note avec grand regret de la décision de Donald Trump. Berne espère malgré tout pouvoir encore négocier une ristourne avec Washington, en pariant sur le fait que les investissements suisses aux États-Unis sont responsables de 400 000 emplois sur le territoire, et en pariant aussi sur le fait que les décisions de Donald Trump sont aussi imprévisibles, qu'elles peuvent être réversibles.
La Suisse taxée à 39%, le Canada à 35%, c'est moins que le Brésil, taxé à 50%. Le Vietnam et Taïwan subissent eux des droits de 20%. Alors avec ces 15% de droits de douane, finalement, l'Union européenne pourrait tirer son épingle du jeu. C'est ce qu'explique Lionel Fontanier, il est professeur à l'École d'économie de Paris et directeur de l'Institut des politiques macroéconomiques et internationales.
Avec les droits de douane, les consommateurs et les entreprises américaines vont acheter plus de produits américains et moins de produits importés. Ça arrivera de toute façon. Mais ensuite, il y a un deuxième étage qui est très très important dans la réflexion, c'est de savoir si, sur une industrie en particulier, les droits de douane que les Européens vont subir sont supérieurs ou inférieurs aux droits de douane que leurs concurrents subissent sur le marché américain.
On a en ce moment l'euro qui s'apprécie face au dollar, ce qui accroît encore plus les difficultés de compétitivité pour les produits européens qui voudraient s'exporter aux États-Unis. Comment on explique ce phénomène ?
Depuis l'arrivée de Donald Trump pour son deuxième mandat, et jusqu'à l'annonce de cet accord avec l'Europe, le dollar s'était déprécié vis-à-vis de l'euro de l'ordre de 14%. Donc on voit que les 14% s'ajoutent aux 15%. Et donc comment expliquer cela ? Sur les marchés internationaux, les opérateurs ont commencé à perdre confiance dans le dollar comme monnaie internationale. Et la raison en est assez simple. Si vous pensez que vous allez avoir un ensemble d'accords qui permet de supprimer tous les déséquilibres commerciaux bilatéraux entre les États-Unis et chacun de leurs partenaires, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin du dollar. Les marchés ont bien compris que non seulement l'incertitude provoquée par la façon de négocier de nos amis américains, mais aussi cette façon de refermer cette vanne qui appelle l'épargne étrangère allait conduire à une moindre attractivité des placements aux États-Unis. On est vraiment dans une situation où, de façon inattendue, par cette politique, Donald Trump a ruiné la confiance que les marchés avaient dans le dollar. Et ceci s'ajoute à un ensemble de doutes qui commencent à être présents sur les marchés concernant la capacité des États-Unis à lever de l'épargne étrangère pour financer leur déficit public qui va être fortement accru par les autres mesures qui sont faites sur la politique interne aux États-Unis.
L'économiste Lionel Fontanier répondait à Marie Viennot. Elle était très attendue des chercheurs, des associations environnementales et des militants écologistes, la carte du gouvernement représentant l'ensemble des eaux et des sites contaminés au PFAS en France, ces polluants en plastique présents dans les sols et les eaux souterraines et potables. Le ministère de la Transition écologique a mis cette carte en ligne. Au total, 2 300 000 analyses ont été faites et les résultats rassemblés sur une seule plateforme dans une volonté de transparence, selon la ministre de l'écologie Agnès Pannier-Runacher. Marie-Aimée Koplert, bonsoir. Bonjour même.
Bonjour. Tiens. Véronique.
Transparence, certes, mais la lecture de la carte des PFAS est au final peu lisible, difficile d'accès.
Oui, c'est ça. Sur le site du gouvernement, on peut voir cette carte de France recouverte de 21 000 points. Chaque point représente une mesure du niveau de contamination au PFAS. Bleu foncé pour les nappes phréatiques, bleu clair les cours d'eau et les lacs, bleu turquoise pour l'eau qui arrive à votre robinet. Et puis il y a des points roses qui indiquent la contamination des eaux rejetées par les sites industriels. Carte inédite, la France est pionnière en Europe sur cette mise à disposition des données, mais elle est inaccessible pour le grand public, juge Pauline Servant, toxicologue, spécialiste des PFAS pour l'association environnementale Génération Future.
Si le citoyen lambda veut aller voir à côté de chez lui s'il y a des PFAS, si son environnement est pollué, déjà il faut qu'il clique sur chacun des points, donc ça peut être très long. Et en plus, une fois cliqué, il n'y a pas d'information, d'explication derrière les résultats qui ont été retrouvés. Quelqu'un qui ne connaît pas le sujet ne peut pas savoir si les quantités qui ont été retrouvées sont importantes, sont dangereuses pour la santé si ça a été retrouvé dans l'eau potable. Il n'y a aucune explication, aucune comparaison avec les seuils réglementaires quand il y en a. Donc c'est pour le citoyen lambda, c'est très compliqué d'interpréter et de finalement de comprendre en fait cette pollution et ce qu'il en est.
Une carte qui ne sera sans doute pas non plus adoptée par les élus locaux, c'était pourtant l'objectif numéro 1 du gouvernement. Les communes sont en première ligne sur le sujet des PFAS, étant responsables de la distribution et de l'assainissement de l'eau.
Merci Marie-Amy Koplert. La TVA augmente sur les factures d'électricité et de gaz. Le gouvernement relève de 5,5% à 20% la TVA sur les abonnements énergétiques. En cause, la nécessité de se conformer aux normes de l'Union européenne. La hausse devrait être compensée en partie par la baisse des tarifs de consommation. Il est libérable, mais pas encore libéré, loin de là. 30 ans après l'attentat du RER Saint-Michel à Paris, l'un des auteurs de l'attentat pourrait être remis en liberté à partir d'aujourd'hui. Mais sa remise en liberté effective reste conditionnée à un transfert immédiat vers l'Algérie. Paris dit ce matin d'ailleurs souhaiter vivement qu'Alger accepte d'accueillir Boualem Ben Saïd, mais les relations diplomatiques entre les deux pays sont particulièrement tendues. Boualem Ben Saïd avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, reconnu notamment coupable d'avoir été le coordinateur et l'un des artificiers de la vague d'attentats, donc qui a touché la France en 1995, notamment dans le RER parisien. Une série d'attentats, Florence Turm, attribuée au GIA, le groupement islamique armé algérien.
Il y a 30 ans, presque jour pour jour, le 25 juillet 95, une bombe explose à la station RER Saint-Michel. 8 morts, 150 blessés, c'est le premier d'une vague d'attentats meurtriers qui vont toucher Paris. Boualem Ben Saïd est reconnu coupable d'avoir posé la bombe, condamné à perpétuité, une peine assortie de 22 ans de sûreté. Toutes ces demandes de libération conditionnelle seront refusées jusqu'à cet arrêt de la Cour d'appel de Paris le 10 juillet dernier. Il prend en compte l'évolution du condamné, faible dangerosité, estiment désormais les psychiatres, et un risque limité de récidive. En Algérie, Boualem Ben Saïd ne fait par ailleurs l'objet d'aucune procédure judiciaire, insiste son avocat Romain Ruiz.
En Algérie, il ne fait d'abord l'objet d'aucune poursuite, mais il fait même l'objet d'une loi d'amnistie qui a été votée par les autorités algériennes pour notamment amnistier un certain nombre de membres du GIA après les événements et après la guerre civile finalement qui a pu faire rage en Algérie. Il y a eu une loi de pardon national qui a été voté et qui permet aujourd'hui à M. Ben Saïd d'être un citoyen absolument comme un autre et visé par absolument aucun soupçon ni même aucune forme de procès ou de condamnation qui l'attendrait là-bas.
Mais pour l'heure, les autorités algériennes n'ont pas délivré le laissez-passer nécessaire à son départ immédiat. Récemment, elles ont déjà refusé d'accueillir plusieurs de leurs ressortissants expulsés par la France. Ce matin, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a rappelé à Alger son obligation en la matière. La question n'est plus désormais juridique, mais bien diplomatique et politique.
Près de 85 000 détenus en France, c'est un record. La densité carcérale atteint 167% en maison d'arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement, donc présumés innocents, et ceux condamnés à de courtes peines. C'était un monument du théâtre américain, un artiste total, visionnaire, qui a révolutionné le théâtre et l'opéra. Les hommages se succèdent après l'annonce de la mort hier soir de Bob Wilson, disparu à l'âge de 83 ans. Partout où elles ont été montrées, ses œuvres ont créé l'événement, surtout en France. Sa relation avec notre pays était particulièrement forte. Bob Wilson s'est fait connaître et remarquer dès le début des années 70 au Festival de Nancy, au Festival d'automne, avec Le regard du sourd, un spectacle muet de 7 heures. Et tout au long de sa carrière, il s'est produit très régulièrement à Paris, à l'Odéon, au Théâtre de la Ville, au Théâtre du Châtelet ou encore à l'Opéra Bastille. Dans quelle mesure Bob Wilson a donc marqué la scène française? Benoît Grossin a posé la question à Antoine Debecq, historien du théâtre.
Il y a eu quelque chose d'absolument nouveau par rapport à ce qu'on voyait sur la scène française, très musicale, qui n'était pas liée à du texte classique. Un théâtre de gestes, un théâtre extrêmement géométrique, qu'on a appelé assez vite ensuite le théâtre post-dramatique, en fait. C'est ça que porte Wilson, c'est-à-dire un théâtre qui s'affranchit du texte, un théâtre qui va beaucoup plus vers le son, vers le corps, vers la déclamation ou au contraire la chanson, l'opéra, et qui a des effets sur la scène française par exemple Georges Lavaudan, André Engels, d'une certaine manière aussi Patrice Chéreau, ont été très influencés par ces grandes scénographies, ces grands spectacles aussi. Et puis ensuite, voilà, ce qu'on appelle l'écriture de plateau a été très influencé par le théâtre de Bob Wilson. L'effet visuel, en fait, que découvre le théâtre français en voyant les spectacles de Bob Wilson, c'est cet impact-là qui est fondamental. Il y a une sorte d'esthétique, d'effet visuel de la scène presque cinématographique qui a été décisif et qui a changé en grande partie l'esthétique du théâtre en France.
Un mot du temps, ce vendredi 1er août, un grand soleil près de la Méditerranée, des éclaircies sur la façade ouest et des risques d'orage et du vent sur le quart nord-est. Les températures maximales, 23 degrés à Dijon et à Autun, 24 degrés à Paris, 28 degrés à Marseille, seulement 20 degrés à Lille. C'est la fin de ce journal, il a été préparé avec Calix Forgeot à la technique, Ludovic Auger.